Frères et sœurs, les amis, en ce cinquième dimanche de carême, prenons bien conscience que nous sommes déjà dans le contexte de la Passion. La première ligne de l'Évangile que nous venons d'entendre mentionne le mont des Oliviers. Donc ce n'est pas par hasard, les évangélistes ne parlent jamais du mont des Oliviers avant les derniers jours de la vie du Christ. Donc nous sommes tout proche, bien évidemment, des jours de la Passion. Deuxièmement, cet épisode, par ailleurs bien connu de la femme adultère, n'est pas une simple anecdote dans la vie du Christ. Il s'agit du sens même de sa mission. Alors, au travers de quelques détails qui ont cependant leur importance, comme par exemple au début de la scène, nous voyons que Jésus est en position d'enseignant. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. La phrase est très claire. Mais voici que, par la question des scribes et des pharisiens, il est placé en position de juge. Nous le remarquons, il est le seul assis de tous les protagonistes qui sont là, présents à cette scène. Et ce thème du jugement, dans l'évangéliste, chez l'évangéliste Saint Jean, est assez important pour qu'on ne s'étonne pas de cette insistance à ce moment. Cette scène, en fait, de la femme adultère est tout simplement la mise en pratique de la phrase qu'on trouve au début de ce même évangile, et je la cite, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, dans ce simulacre de procès, les choses sont apparemment simples. La femme adultère était prise tout simplement en flagrant délit. Il y a des témoins et la loi de Moïse condamnait l'adultère. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que les protagonistes ne vont pas parler de ce que les livres du Lévitique nous rapportent et prévoyaient. Et je le cite, « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. » Donc c'est très étonnant de la part des scribes et des pharisiens qui sont censés être très attachés à la loi et la respecter, ils oublient de dire que la loi prévoyait la peine capitale autant pour l'un que pour l'autre, pas simplement pour la femme adultère. Et donc c'est là que va commencer à poindre le piège que les scribes et les pharisiens vont tendre au Christ et qui nous fait poser la question, où est le piège tendu à Jésus et de quoi espérait-on l'accuser? Alors évidemment, le Christ ne va pas tomber dans le panneau d'approuver la lapidation, bien évidemment que non. Ce serait contredire toute sa prédication sur la miséricorde. Mais il ose publiquement plaider pour la libération de cette femme adultère. Alors on pourra évidemment l'accuser de désobéir, ça c'est une affaire entendue, à la loi. Mais la question que vont poser les protagonistes, cette espèce d'apostrophe que nous trouvons dans le texte, « Maître, qu'en dis-tu ?» montre que le Christ n'est pas dans une meilleure posture que la femme adultère. Les deux sont en danger de mort, tout simplement. Alors comme chaque fois, le Christ ne va pas répondre tout de suite. Jésus s'était baissé et du doigt il traçait des traits sur le sol. Alors je me permets d'attirer votre attention sur ce silence qui est certainement destiné à laisser à chacun, au cœur de sa conscience, le soin de répondre à cette question. Très respectueux, le Seigneur ne va humilier personne, parce que celui qui incarne la miséricorde ne cherche pas à mettre qui que ce soit dans l'embarras, pas plus les scribes que les autres, ni que la femme adultère. Aux uns comme aux autres, le Christ, comme nous l'avons dit du reste dimanche dernier, essaye de faire un bout de chemin aux protagonistes qui sont là. Alors ce silence, si je me permets d'y revenir, c'est qu'il est constructif. Il va faire découvrir tout simplement aux pharisiens et aux scribes le véritable visage du Dieu de miséricorde. Quand il se décide à répondre, la phrase du Christ ressemble plutôt à une question. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter la pierre. La loi ne disait pas que c'était le témoin de l'adultère qui devait lancer la première pierre, mais elle le disait expressément pour le cas d'idolâtrie. Si bien que la réponse du Christ peut se traduire ainsi, cette femme est coupable d'adultère, certes, au premier sens du terme, c'est entendu, mais vous, n'êtes-vous pas en train de commettre un adultère autrement plus grave, c'est-à-dire une infidélité au Dieu de l'Alliance? La loi que vous défendez si bien est devenue votre idole. Alors on voit très bien la subtilité du Christ dans cette apostrophe qu'il fait aux publicains et aux pharisiens. C'est de mettre les scribes et les pharisiens en face de leur obsession, qui devient une véritable idolâtrie, de la loi. Et donc, cette attitude de leur part est évidemment à l'opposé de l'attitude du Christ, qui est une attitude de miséricorde. Ne vous trompez pas de Dieu, semble dire le Christ. Soyez miséricordieux. Alors, sur cette réponse, eh bien, nous avons entendu, vous connaissez la suite du texte, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés, vont quitter la scène. Il n'y a là rien d'étonnant. Alors, frères et sœurs, puisque nous parlions de jugement tout à l'heure, nous pouvons, à quelques jours maintenant de l'entrée de notre vie spirituelle, dans les jours très saints, les jours de la Semaine Sainte, pour demander au Seigneur que toute espèce de jugement que nous portons tant de fois sur nos frères et sur nos sœurs, mais aussi sur ce monde, qui à bien des égards nous échappe, nous plonge dans le désarroi, dans les interrogations et peut-être dans le doute. Nous voyons bien que ce qui sera vécu le Vendredi Saint et le Samedi Saint est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Toutes ces interrogations découragent beaucoup de monde, mais nous savons, chrétiens que nous sommes, de par notre baptême, que nous avons revêtu le Christ. Pardonnez-moi une fois de plus de revenir au fondement du baptême, mais ayant revêtu le Christ, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la certitude que greffé sur le Christ, sur sa mort et sa résurrection, nous sommes déjà des êtres habités par la lumière du Christ ressuscité. Telle est notre foi que nous allons vivre dans son sommet, qui est la vigile pascale, ce passage de la vie à la vie éternelle du Christ précédant la nôtre. Amen.